On a parlé ensemble du technofascisme, du libéralisme, du fait qu'aujourd'hui, finalement, on est arrivé à un moment relativement similaire à la fin du 19e siècle dont tu as parlé, à savoir qu'il y a une crise de ces valeurs libérales auxquelles plus personne, finalement, ne croit. Et donc tu dis dans ce livre Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, tu dis que finalement nous manquons aujourd'hui de ces fictions, de ces récits qui nous permettent de vivre ensemble, qui nous permettent de trouver des échappatoires à la pulsion de mort, qui nous permettent de faire collectif en fait. Et ce monde dans lequel nous vivons, ce monde complètement taylorisé, expertisé, quantifié, est un monde désenchanté. J'ai envie simplement de te citer: au nom de la modernité et du pragmatisme férocement non idéaliste, farouchement et faussement tolérante, exigeant un conformisme de masse porté par la consommation et la télévision, se profile un fascisme de consommation, un totalitarisme pire que celui du vieux pouvoir pour Pasolini. Avec ce nouveau pouvoir technofasciste s'achève l'erreur de la modernité de croire dans la possibilité d'un désenchantement définitif du monde. Les civilisations techniques et économiques prétendent accomplir la fin des religions, la disparition du sacré au profit d'un hédonisme de masse porté par une société de consommation et de progrès, mais le besoin de croire, le désir de sacré et la passion du mystère ressurgissent avec force et violence du fait d'une panne du politique autant que de l'éthique, du fait aussi de l'inanité des promesses d'émancipation sociale et subjective. Fin de citation. Alors, si tu veux bien, Roland Gory, parle-nous un petit peu de ces récits et de ces fictions.
Bon, on voit par exemple chez Hobbes lui-même l'idée que, bon, je me souviens de l'histoire du Léviathan, ce monstre qui émerge des profondeurs de la mer et qui finalement va représenter l'État, monopolisant la violence et l'agressivité de chacun pour pouvoir empêcher la guerre de tous contre tous. C'est quand même cette idée chez Hobbes, c'est l'État et ce qui va, l'État et la religion, l'origine de l'État et de la religion. C'est finalement la confiscation des moyens de se défendre et d'agresser d'un individu au profit d'une entité représentée par le Léviathan qui vient réguler les rapports sociaux et éviter que les gens ne se détruisent. Et c'est la peur de la mort qui est l'émotion morale, si j'ose dire, conduisant chacun à se soumettre à l'autorité de l'État. On s'aperçoit que l'origine de l'État, comme l'origine de la religion, il insiste bien là-dessus, ce n'est pas simplement la confiscation par le monstre froid de l'État, du pouvoir de se défendre, du pouvoir d'agresser, qui évite à chacun le risque de mourir, puisque c'est le risque de, c'est la peur de la mort qui constitue l'émotion morale et politique conduisant les individus à se soumettre à la volonté de l'État. C'est pas seulement ça. Hobbes montre bien que c'est parce qu'il croit à cette fiction. C'est-à-dire qu'en gros, il croit à la fiction selon laquelle existerait ce monstre froid et terrifiant de l'État, que finalement, ils se soumettent aux principes et aux pratiques et aux dispositifs étatiques. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, si.
C'est que partout, en gros, je crois que c'est Hobbes qui cite Thucydide, il fictionnait, il croyait la fiction. C'est-à-dire que si tu ne crois pas, si tu ne crois pas à ce au nom de quoi on t'impose une loi ou on t'impose une norme, bah, il va de soi que ça ne tient pas la route, quoi. Bon. Le libéralisme repose avec Montesquieu sur la fiction selon laquelle c'est la séparation des pouvoirs, selon laquelle c'est la tolérance de l'opinion, selon laquelle c'est finalement le droit et la force du droit qui va permettre d'éradiquer la terreur qui est le monopole des régimes tyranniques et arbitraires du dictateur absolu, pour aller vite. Hein. Donc là encore, c'est comment dire, bien sûr que ça s'inscrit dans des discours, des institutions et des pratiques sociales, mais il faut quand même qu'il y ait un crédit subjectif. faut qu'il y ait une adhésion subjective et sociale pour que ça marche. Donc, je dirais, on voit bien comment aujourd'hui, on gouverne au nom de la norme. On gouverne au nom du droit. On voit bien comment on est dans des sociétés et des vies sociales qui sont de plus en plus judiciarisées, qui sont de plus en plus formalisées par des dispositifs normatifs. Alors, je vais être très concret. Aujourd'hui, en gros, on a démultiplié, tu le sais très bien dans les établissements scolaires, le nombre de normes, de réglementations, de ce que les juristes appellent le droit mou, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui prescrivent de façon des comportements. Alors pour être très concret, par exemple, comment aujourd'hui permettre que des enfants caractériels ou psychotiques dans une institution puissent participer à un atelier cuisine et puis ensuite partager entre eux les plats qu'ils ont confectionnés, puisqu'il va y avoir des règles d'hygiène, il va y avoir des normes qui font que ça va être interdit, ça va être impossible. Donc, en gros, on revient sur l'histoire d'évaluation, de tarification, de conformité. On est dans un régime qui est technofasciste en tant que, de toute façon, il organise notre vie quotidienne et il nous prive de notre capacité de décider, de penser, de nous comporter comme on veut pour aller vite ensemble, bien sûr, hein, c'est-à-dire en débat et en conflit, puisque tout est déjà prescrit par un mode d'emploi absolument tyrannique. Alors,
mais au nom d'une certaine idée du bonheur, ce que tu rappelles dans « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux » en 2014.
Du bonheur qui n'est plus le bonheur auquel Saint-Just faisait allusion, qui n'est plus le bonheur public auquel les promoteurs de la démocratie dans la Révolution américaine adhéraient, c'est-à-dire le champ du politique.
Oui,
c'est le bonheur réduit à être le bien-être. Alors, comme aujourd'hui on n'a plus d'argent, on ne va pas promettre le bien-être, on va promettre la sécurité devenant la part la plus étriquée, la portion congrue du bien-être et du confort. J'aimerais me référer à un discours de Solzhenitsyn que j'ai trouvé assez extraordinaire, parce qu'il montre bien comment nous sommes aujourd'hui dans une vie sociale entièrement gouvernée, enfin soumise d'ailleurs plutôt que gouvernée. Au sens de Rousseau, il y a une différence entre soumettre une multitude et gouverner une société, hein, comme disait Rousseau. Donc soumettre des populations au nom justement des normes et au nom de la loi. Et donc ça aboutit à ce qu'il appelle le déclin du courage. Alors, je voudrais lire un passage du discours de Harvard qu'il a prononcé sur le déclin du courage en 1978, et qui est assez extraordinaire, parce qu'il revient des camps sur le génocide. Et il dit « Moi qui ai passé toute ma vie sous le communisme, j'affirme qu'une société où il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible, ça y connaît, il y a l'URSS, mais une société qui ne possède en tout et pour tout qu'une balance juridique n'est pas, elle non plus, vraiment digne de l'homme. Le droit est trop froid et trop formel pour exercer sur la société une influence bénéfique. Lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Ça montre à quel point, en gros, aujourd'hui, tout est judiciarisé. On a vu cette affaire du Burkini. Alors là, moi, je trouve ça extraordinaire. Ce matin, j'entendais à France Inter que Hulot et le ministère de l'écologie, comme finalement, ils n'arrivent pas à avoir le courage politique de décider de la réduction du nucléaire, ils déplacent les exigences de la loi vers les normes de la propriété, de l'héritage, c'est-à-dire des individus, en créant une espèce de pondération bonus-malus sur les appartements. Et donc, en gros, on voit bien comment il y a un déclin, pour reprendre le terme du discours de Harvard de Solzhenitsyn, un déclin du courage politique qui, ne pouvant en quelque sorte exercer sa mandature, sa législation politique, la déplace sur une espèce de normalisation des conduites, en obligeant les individus à prendre à leur charge, d'ailleurs au passage, les aménagements de leur appartement pour réduire la consommation énergétique, aboutissant à, soi-disant, la réduction de l'énergie nucléaire. Bon, ça me paraît significatif comme l'histoire du Burkini, c'est-à-dire que en gros, c'est aujourd'hui le moins de problèmes. Bon, on l'a vu, balance ton porc, etc. Bon, ça fout n'importe quel problème social. Ça peut avoir des effets positifs. Ne me faisons pas dire ce que je ne dis pas. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en gros, Du coup, on s'adresse à Macron pour qu'il balance une loi. C'est comme si, mais c'est faire perdre la substance même de ce qu'est une loi. C'est la transformer simplement en circulaire d'établissement, quoi. Hein. Y a un problème social, il y a un problème politique, boum, une loi.
Je veux dire. Mais je dirais que ça, ce recours à la loi, on l'a vu depuis longtemps. On le voyait déjà quand Sarkozy, avant même d'être président, était ministre de l'Intérieur. Il y avait déjà aussi ce truc, tout le temps faire appel à la loi. J'ai l'impression qu'avec Macron, on a atteint le stade suivant, à savoir qu'il n'y a même plus besoin de faire des lois, on peut faire des décrets, on peut gouverner par ordonnance, il n'y a même plus besoin d'en passer par le pouvoir législatif, finalement.
Bien sûr, parce que Sarkozy faisait semblant d'être Bonaparte, alors que Macron a tendance à l'être pour de bon.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, on est passé de, je dirais, de l'obscénité un peu braillarde à, je dirais, l'autoritarisme de ce que j'ai appelé l'extrême centre, hein, le fameux en même temps. Bon. Alors, pour revenir sur cette question, dans ce monde, encore une fois, désenchanté, dans ce monde instrumentalisé, dans ce monde fonctionnel, il n'y a a priori pas d'état d'âme. Ce qui est vraiment, on voit bien d'ailleurs comment ça répond à notre vie moderne, à la manière de vivre dans la modernité, pour aller vite, il s'agit de fonctionner comme des machines. Aujourd'hui, les machines sont formidables parce qu'en plus, c'est des machines liquides, ce sont des algorithmes. Enfin, ça n'a pas. Bon. La fiction, bien sûr qu'il y a une fiction. La fiction, c'est la fiction implicite d'un homme machinal et d'une vie sociale machinale. Mais cette fiction-là, elle est en quelque sorte monstrueuse. Elle est monstrueuse au sens où elle est une fiction anti-onirique, une fiction anti-rêve, une fiction anti-rationalité, une fiction anti-amour. Elle ne peut être affectée que par la passion triste de la haine aboutissant à la chosification des individus et à la fonctionnalité de leur comportement. Donc c'est là où, à mon avis, on touche quelque chose qui est la panne de rêve collectif, la panne d'utopie. L'utopie, on a tendance à trouver ce terme, à l'utiliser comme un terme dévalorisant et péjoratif, alors que l'utopie, c'est ce qui n'a pas encore de lieu, étymologiquement, mais qui est l'accueil même des rêves que l'on peut avoir, des projets que l'on peut partager. Et aujourd'hui, à la place du projet, on a le programme, qui est un anti-projet, pour aller vite. Et un programme, si possible, établi par les calculs de probabilité qui viennent à la place du rêve. On voit bien comment, pour faire vite et pour faire simple, tout ce qui aujourd'hui peut favoriser justement l'émergence de fiction, c'est-à-dire de sacrer l'émergence de l'art, est quelque chose qui est dévalorisé. Les humanités non plus, bon, on en a parlé de la Troisième République tout à l'heure, mais les humanités, c'était quelque chose d'important. Les rêves d'une raison universelle, d'une fiction universelle, la capacité méritocratique d'une école de la République, etc. Bon, c'était en quelque sorte des fictions qui permettaient de penser un avenir qui n'était pas encore là. Or, aujourd'hui, l'avenir, nous ne le pensons que comme la poursuite du présent. Nous ne le pensons que comme par extrapolation probabiliste des données du présent. Il y a là quelque chose qui est tout à fait monstrueux, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, bon, il ne faut pas exagérer, il y a des poches de résistance, il ne faut pas exagérer. Il y a, bien sûr, on le sait très bien, depuis Nietzsche, toute valeur tend par transmutation à se détruire elle-même. Donc, on peut penser, moi je suis persuadé que le néolibéralisme se détruit lui-même. Il se détruit lui-même parce que justement, il perd sa substance libérale dont dans sa pratique, il constitue le déni. Je dis souvent, maintenant en commençant les conférences, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que le néolibéralisme est mort, plus personne ne peut le considérer comme une fiction à laquelle on peut adhérer. En tant que vision du monde, il est mort, le néolibéralisme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne le sait pas. Et que, ne le sachant pas, il se poursuit par des institutions à la fois sécuritaires et économiques et financières qui tendent à le perfuser dans son agonie. Comment aujourd'hui, où finalement c'est le calcul de probabilité C'est quand même ça, pour aller vite, tout ce qu'on peut dire concernant le comportementalisme, le cognitivisme, les neurosciences, l'économie, l'épidémiologie, etc. C'est en termes de prédiction de l'avenir, sur la base des données présentes, que l'on peut extrapoler en termes de probabilité. C'est quelque part empêcher, on n'y arrive pas, mais empêcher la possibilité de rêver. C'est-à-dire finalement d'aimer, hein, il faut dire la chose tout bêtement. Pour qu'il y ait rêve, il faut quand même qu'il y ait un contact possible avec son corps, il faut quand même qu'il y ait un contact possible avec l'autre, il faut quand même qu'il y ait un contact possible et sensible avec la nature, etc. Or, dans un monde où il y a une espèce de quadrillage normatif des conduites qui les affecte à des fonctions instrumentales bien données et standardisées. Il suffit de voir, on se déplace dans le métro, on va vivre dans une maison intelligente, dans une ville intelligente, dans un monde intelligent, sauf qu'il n'y aura plus d'humains. Hein, c'est une grande thèse de Gunther Sanders, par exemple.
Bien sûr.
C'est toute la question du numérique aujourd'hui. Alors, bon, on m'a dit souvent que je critiquais le numérique, pas du tout, je trouve ça formidable, l'ordinateur, toutes ces petites machines qu'on peut manipuler, iPhone, iPad, etc. Moi aussi je m'en sers, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'en gros, aujourd'hui on a tendance à se connecter sans arrêt, à l'instant, mais sans se donner le temps d'une relation sensible et concrète.
Bien sûr.
Il y a une dévitalisation du monde. Qui va tout à fait dans le sens du rationalisme économique morbide, c'est-à-dire effectivement considérer, encore une fois, l'homme et la nature comme un stock d'énergie exploité. C'est là où je crois qu'il est important qu'on rêve ensemble. Je veux dire, ça a été quand même extraordinaire quand des gens ont commencé à rêver sur l'interdiction du travail des enfants dans les mines. Mais ça d'abord été un rêve partagé. Hein, et on voit bien. Il y a des commissions qui rapportaient des propos du patron disant mais c'est pas possible, vous allez nous mettre tous à la ruine et au chômage. Hugo avait cette phrase très forte qui disait les utopies d'aujourd'hui seront les vérités de demain. Donc il nous faut cette possibilité d'imaginer un autre monde. Et pour ça, je ne dis pas qu'on va se passer de la finance, de l'économie, de la technique, etc. Mais il faut les remettre à leur place. Il faut faire en sorte qu'il y ait des interstices qui nous permettent de penser des choses autrement et donc que les rouages ne soient pas trop serrés et ne soient pas trop contraints de telle manière que l'éducation comme le soin ne deviennent plus qu'une histoire de machine programmatique.
Moi, j'appartiens à une génération qui est extraordinairement apathique. Alors, on est quelques-uns à résister intellectuellement, à se mobiliser, mais on est devenu très frileux. On est devenu très frileux, on n'ose plus trop y croire, tellement on a vu en si peu de temps les mots, pour résumer, les mots perdre tout sens. La gauche, le grand mot de gauche, désigner absolument la droite. Voilà. Gauche et la droite, c'est devenu la même chose. L'art, qui c'est devenu le marché. Enfin, bref, on ne rêve plus parce qu'à chaque fois qu'on a un petit peu d'espoir, on a l'impression qu'on va se faire doucher, quoi. Donc, finalement, dans ce que tu dis, le néolibéralisme est mort, mais ne le sait pas. Hein, c'est l'incipit de ton livre Un monde sans esprit, où tu reprends cette fameuse phrase de Gramsci, la crise c'est lorsque le vieux monde est en train de mourir et que le nouveau monde tarde à naître et dans ce clair-obscur naissent les monstres. Ce nouveau monde, on aimerait qu'il naisse et on n'en peut plus d'attendre qu'il naisse, quoi. On n'en peut plus que ce vieux monde mette si longtemps à mourir, on a l'impression que c'est fou qu'il bouge encore, quoi. Dans ce clair-obscur naissent les monstres. Qui sont ces monstres? On les connaît. Le djihadisme, Daesh, mais aussi, et j'aime beaucoup la manière dont tu les mets dos à dos, les identitaristes, en règle générale, les intellectuels, si on peut leur donner ce titre-là, de droite, qui tiennent aujourd'hui le haut, quand je dis de droite, je veux dire d'extrême droite, qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé. Tu nous dis qu'il faut retrouver des fictions qui nous permettent de rendre le monde supportable. Tu cites Hannah Arendt, en disant que ce qui va nous permettre d'éviter le désert, voilà. Mais en fait, là où on va avoir un problème, c'est que c'est exactement ce que disent aussi les penseurs réactionnaires, qui disent exactement la même chose. Et donc c'est là où j'ai une question à te poser, c'est que pour la gauche, on a une nécessité à penser une lutte contre deux choses à la fois contre l'économie libérale, mais aussi de lutter contre les vieux démons nationalistes, identitaristes, qui, dans l'histoire du XXe siècle, n'ont jamais servi que les intérêts du capital et ont conduit à toutes sortes de guerres, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une manière de se tirer de ce double écueil, quoi? En gros, pour faire simple, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui pour toi, la gauche?
Oula, si j'avais une réponse, je vais la breveter. Je crois que le chemin se trouvera en cheminant. C'est-à-dire que, alors, quant à savoir qu'effectivement, certaines contestations des valeurs libérales peuvent à la fois trouver un écho à gauche, voire à l'extrême gauche et à l'extrême droite, c'est un vieux problème. Mmh. C'est tout le problème du courant romantique de la pensée politique qui a pu aussi bien nourrir, je dirais, les romantiques aristocratiques visant la restitution, le rétablissement de l'Ancien Régime, que finalement les libéraux progressistes voulant développer des choses vers le socialisme ou vers la République sociale. Donc depuis très longtemps, pour ne pas dire presque toujours, la critique de l'idéologie dominante à un moment donné, cette critique, elle a trouvé son écho, ses échos, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Donc c'est on sait bien que, par exemple, on a pu dire que toute la pensée politique visant le rétablissement des droits de la subjectivité, de l'individualité, de la nature, du lien social et familial, a nourri aussi bien la propagande fasciste et nazie que, bien évidemment, les mouvements écologistes ou progressistes ou socialistes. Donc, ma crainte, c'est que la multiplication des machines normatives, les procédures, les standardisations, les règles de bonne pratique, enfin la droit mot, etc., que les machines devenues des dispositifs de normalisation des conduites et de taylorisation des activités professionnelles, ma crainte, c'est que il manque de temps, il manque de lieu, il manque de moment, il manque de valorisation pour pouvoir trouver du temps pour penser, parler comme on est en train de le faire, échanger, etc. Donc, en gros, mon souci est là. Et c'est là, d'ailleurs, où je vois dans le numérique à la fois et un danger, et une menace, et en même temps un espoir. Le danger et la menace, c'est qu'effectivement, la théorisation des activités, l'automatisation des tâches produisent une pression plus grande sur les individus et que ce temps, en quelque sorte, qui est libéré de par la prise en charge par les machines d'un certain nombre de tâches, ce temps soit utilisé à être réinvesti pour produire du profit, voire pour produire un peu plus de désespoir, d'apathie et de colère chez les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, en les précarisant davantage et en les manageant par la peur et le risque de perdre leur emploi ou leur possibilité même de vivre leur vie, quoi, hein, bon. Et un espoir dans la mesure où ce temps libéré devrait servir à autre chose que le travail, au sens de torture, au sens de tripalium, le travail, au sens d'obligation, et pourrait ce temps libéré servir pour des tâches sociales, pour des tâches de création, pour des tâches aussi, pour du temps personnel. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire qu'il faut réhabiliter des espaces politiques. Quand tu prends Hannah Arendt par rapport à l'histoire du désert, elle dit bien que, en gros, le désert se produit de par l'effacement des espaces où les humains peuvent, par des actions politiques et des paroles concrète, échanger, vivre ensemble, décider, c'est-à-dire nourrir un espace symbolique qui puisse en quelque sorte contrebalancer un pouvoir totalitaire qui vise qu'à une seule chose, c'est leur adaptation. Leur adaptation. Et là, elle a eu une phrase terrible que tu connais. Tu as dit la psychologie ne vise pas à sortir les gens du désert, mais à les adapter à vivre dans le désert. Bon, c'est ça qui est absolument terrifiant. Mmh. Et là, on voit très bien d'ailleurs comment, donc, au niveau comportementaliste ou autre chose, pas que ça, hein, mais peut participer, la psychanalyse a donné aussi de ce côté-là, peut participer à finalement permettre aux gens de s'adapter à des conditions inadmissibles. Du côté de la gauche, ce qui est absolument terrible, c'est qu'on nous a dit il n'y a pas d'autre alternative, hein, enfin, la fameuse Tina de Margaret Thatcher, mais à laquelle la gauche socialiste notamment s'est aussi résignée.
Bien sûr.
Parce que tu parles de l'apathie. L'apathie, on le sait bien en termes psychanalytiques comme en termes psychologie sociale d'ailleurs, que l'apathie se produit de par le désespoir. C'est une forme de dépression face au sentiment qu'on ne pourra rien y changer, quoi qu'on fasse, et donc on ne fait plus rien. Bon, alors, on le sait, au niveau de la psychanalyse, l'apathie, c'est une espèce d'inhibition à penser et à agir, d'inhibition d'affect aussi, de par, encore une fois, le désespoir. Donc, moi, ce que je prône tout bêtement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'on desserre au maximum les nœuds qui nous enserrent par cette manière de vivre ensemble et qu'on puisse trouver du temps pour se parler, penser, échanger, rêver. Alors quand tu disais aussi la peur de rêver, mais cette peur de rêver, elle n'est pas simplement sociale, elle est subjective.
Merci.
C'est l'insomnie. Pourquoi est-ce qu'il y a des individus insomniaques ? Parce qu'ils ont peur de rêver. C'est pas qu'ils ont peur de dormir, c'est qu'ils ont peur de rêver. Ils ont peur d'être confrontés à une réalité intérieure. Et là, on voit bien, par rapport à l'apport de la psychanalyse, la complaisance du sujet à se soumettre à quelque chose qui finalement lui fait économiser d'avoir à affronter une réalité psychique ou une réalité sociale.
Je repose quand même ma question sur la gauche, parce que aujourd'hui, je veux juste préciser une chose, c'est que je sais pas si c'est vrai ou si c'est la déformation de mon regard à moi aussi qui fait ça. J'ai l'impression qu'on est dans une époque particulièrement violente et conflictuelle, et que c'est aussi une époque où l'idéologie, où le discours, où la superstructure sont incroyablement incluantes, si je peux dire. On a l'impression que plus la société est clivée, moins le discours l'est. Et je trouve que la campagne de Mélenchon a été particulièrement instructive à cet égard. Tu vas me dire ce que toi tu en as pensé. Mélenchon, qui avait fait en 2012 une campagne très clivante, très à gauche, très critique, a fait une campagne très incluante. L'international a été remplacé par la Marseillaise, les drapeaux rouges par les drapeaux tricolores, etc., etc. Est-ce que, donc deux choses, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer l'existence d'une gauche, vraiment par opposition à une droite? Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses de l'état de la gauche, qu'elle soit politique ou intellectuelle, aujourd'hui?
Alors comme j'ai un peu l'esprit d'escalier, je vais essayer de répondre à ta question en revenant à la question de tout à l'heure, à laquelle je n'avais pas tout à fait répondu sur la fiction et sur l'art, d'une certaine manière. Comme tu le sais, je me réfère souvent à Walter Benjamin, qui dit que l'art est justement quelque chose qui est en tension entre deux pôles, un pôle esthétique et un pôle culturel ou sacré, ou d'efficience symbolique, magique, si on veut bien. Et il donne toujours cet exemple, il y a la jouissance esthétique du voir. Et puis, il y a, en quelque sorte, le sacrifice de l'œuvre accomplie dans l'art. Je m'explique. Bon, on a, par exemple, des animaux peints sur les parois de grottes, cet art préhistorique pariétal. C'est à la fois, bien sûr, on peut en jouir esthétiquement, mais c'est aussi une magie qui est qu'en quelque sorte, on pense qu'on aura plus de chances d'avoir du gibier du fait même qu'on a eu cet acte justement de création. C'est-à-dire qu'en gros, toute création, qu'elle soit de peinture, mais aussi création de pensée, création de projet, qu'il soit politique, pédagogique ou autre, est pris entre ces deux pôles. Tolstoï, j'en parle en mon sens d'esprit, Tolstoï critique justement l'art après la Renaissance, qui aurait abandonné sa fonction sociale et sacrée de relier les hommes entre eux en les faisant communier ensemble, et en les orientant davantage vers une jouissance du beau pour le beau. Je pense qu'on a quelque chose de cet ordre dans tous les domaines de l'esprit. C'est-à-dire que la politique, à la fois, elle est prise par la jouissance esthétique du spectacle et ou bien par la mobilisation de croyances qui engagent les individus dans un acte sacré. Et d'une certaine manière, eh ben, allez, on va être méchant, mais Macron, Mélenchon, c'est les deux frères ennemis. C'est-à-dire ces deux personnalités qui ont réussi à émerger hors du champ de forces partisanes qui, quand même, mobilisaient, coagulaient des croyances et des adhésions, on va dire sacrées, allez, pour faire vite. Hein. Donc, je crois que c'est la force et la faiblesse des deux, d'ailleurs. Leur force, c'est qu'effectivement, ils ont réussi, les deux ont réussi, Macron, le président de la République, et Mélenchon est quand même la figure de proue de l'opposition. Leur faiblesse, c'est qu'à mon avis, étant donné qu'ils ont offert une jouissance esthétique de spectacle politique et de discours à responsabilité limitée, au moment où ils l'ont prononcé, hein, il va de soi qu'ils n'ont pas des militants. Ils n'ont pas, en quelque sorte, engagé dans une relation sacrée. Ils n'ont pas des croyants. Ils ont des pratiquants consommateurs. Ce qui est terrifiant de la gauche, il faut quand même le dire, la gauche porte une responsabilité terrible, mais pas que la gauche française, toute la gauche européenne et même la gauche américaine. C'est-à-dire que, à mon avis, ce ne sont pas des sociodémocrates. Il y a une imposture à dire que les socialistes sont des réformateurs sociodémocrates. Non, ce sont ces sociolibéraux. C'est-à-dire que la social-démocratie, c'est quand même, je dirais, le régime socialiste, mais installé par des moyens non révolutionnaires, par opposition, justement, aux communistes, aux marxistes et autres forces d'extrême-gauche. Donc ce qui différenciait classiquement, ce qui différenciait les partis social-démocrates des partis communistes ou révolutionnaires, c'était pas la finalité qui était l'égalité, la liberté, l'intérêt général, l'appropriation collective des moyens de production, etc. C'était les moyens pour y parvenir. Mmh. Et donc on a menti, on continue à mentir, quand on dit que la politique socialiste en Europe ou démocrate aux États-Unis était social-démocrate. Non, elle est social-libérale. Pour prendre le cas de Hollande, il a fait un si mauvais président, à la mesure où il n'a pas fait ce qu'il avait dit et qui lui a permis d'être élu. C'était qu'en gros, il a fait une autre politique que celle qu'il avait annoncée. C'est ça qui est dramatique. Et là, il y a une crise qui est une crise de légitimité de la parole. Et là, il y a quelque chose d'absolument terrible. Mais,
si mais Jospin avait fait la même chose en 97.
Mais je pense
et Mitterrand avant.
Oui, oui, mais enfin, d'abord, Mitterrand, c'est quand même une autre époque. Attention, on est aussi en crise. On est en crise au sens où c'est pas seulement une crise économique, financière, etc., dont on se rétablira. Il faut lire Keynes là-dessus. N'est-ce pas ? La crise, c'est la crise, comme disait Keynes, justement, du goût de chanter, de danser. C'est-à-dire, la crise, elle est là. Elle est une crise éthique, une crise politique, une crise morale, une crise culturelle. Hein. En gros, on voit bien comment Trump a été élu contre Hillary Clinton. Hillary Clinton étant la femme de Bill Clinton, c'est-à-dire l'homme qui a converti le parti démocrate aux vertus néolibérales, qui étaient jusque-là portées par les républicains. Donc, c'est, quand tu parles de gauche et de droite, cet effacement entre la gauche et la droite, elle n'est pas qu'en France, et la plupart, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Angleterre, avec Blair, ce terrible blairisme, bon, bref. Et maintenant, Louis Macron, c'est le Blair qui va nous sauver. Et non, il va nous mettre dans la merde, comme Blair a mis les Anglais dans la merde. Bon. Effectivement, je crois que la stratégie, aussi bien de Macron que de Mélenchon, c'est de s'adresser directement au peuple en se passant des intermédiaires. Mais ça, si on suit Hannah Arendt, c'est justement le signe même de la disparition de la démocratie. Je crois que l'un et l'autre ont un certain courage, il faut bien le reconnaître, Mélenchon comme Macron, Mais je crois que l'un et l'autre sont à leur manière un peu coincés. À mon avis, Macron, parce qu'il y a une contradiction énorme entre, je dirais, une rhétorique parfaitement huilée, le fameux en même temps, hein, qui se voudrait humaniste, pour aller vite, et qui est dénié par une pratique sociale et économique totalement néolibérale, et le fait qu'il ait confié d'ailleurs à Darmanin et à Bruno Le Maire les clés du gouvernement économique de la France, montre son choix. Et ni droite ni gauche, je suis désolé de rappeler que c'était quand même un slogan fasciste.
Bien sûr.
Et reprendre la main, à mon avis, c'est, comme disait Jaurès, hein, la démocratie ne s'arrête pas pour des usines, c'est sur la scène professionnelle que la démocratie peut être construite.
Très clairement. Alors, ce manifeste des ouvriers que tu co-signes avec Bernard...
Des ouvriers, pardon.
Voilà, j'ai fait le lapsus qu'il ne fallait pas. Donc, le manifeste des ouvriers co-signé Roland Gory, Bernard Lubat et Charles Sylvestre chez Actes Sud et Les Liens qui Libèrent, c'est justement la bouffée d'air. Comment est-ce qu'on va, peut-être pas s'en tirer, mais une piste qu'il faut explorer et qui est très intéressante, c'est redonner du sens à ce qu'on fait. Retrouver le sens d'une activité qui ne soit plus seulement une activité professionnelle ou salariée, mais une activité que vous appelez tous les trois œuvrière, donc faire œuvre. Qu'est-ce que c'est une œuvre ?
Alors, écoute, j'aime beaucoup cette phrase de Michel Foucault, qui en 1983 à Berkeley a répondu aux étudiants qui l'interrogeaient sur la question justement sur la question de l'œuvre. Il dit : ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société, l'art est devenu quelque chose qui n'est en rapport qu'avec les objets et non pas avec les individus ou avec la vie. Et aussi que l'art est un domaine spécialisé, fait par des experts qui sont des artistes. Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d'art et non pas notre vie ? Moi, je crois beaucoup à ces penseurs et créateurs visionnaires que furent William Morris et le mouvement Art and Craft, qui reposait sur un trépied philosophique qui était en quelque sorte l'artisanat, l'art et le socialisme. C'est-à-dire en gros cette idée qu'on peut fabriquer du beau, du bien, du vrai, et que ça se vend. Et que ça peut se faire avec des gens qu'on aime bien. Et non pas publier, comme on fait dans les universités maintenant, court et sale, pour avoir des points de carrière dans les facteurs H ou facteurs M d'évaluation bibliométrique, non pas répondre au score qu'indiquent les protocoles standardisés des tâches que l'on doit faire quand on est enseignant ou quand on est soignant, mais faire en sorte que les techniciens que nous sommes, parce que nous sommes tous des techniciens, nous avons une compétence technique, ces techniciens puissent avoir le temps et le désir de partager ensemble une réflexion sur ce qu'ils font. Et donc, du coup, ce qu'ils font n'est plus organisé par un taylorisme généralisé. Bien sûr, il faut une fonctionnalité des tâches. Bien sûr, il faut parfois diviser les fonctions du travail, ça va de soi. Mais il faut avoir le temps de réfléchir sur ce qui est nécessaire de par la finalité de ce que l'on accomplit et le distinguer de ce qui est imposé et contraint de par les moyens que l'on nous donne pour pouvoir se soumettre à une nouvelle autorité anonyme, insidieuse et perfide. Donc, pour faire vite et pour faire simple, aujourd'hui, l'évaluation, ce que j'appelle la néo-évaluation, elle sert en gros à donner des ordres sans en avoir l'air. Il faut, en quelque sorte, que les techniciens que nous sommes aient la possibilité de réfléchir pour savoir si les actes qu'ils accomplissent sont bien, en quelque sorte, en conformité avec les finalités qu'il est légitime. Donc, ça veut dire qu'il nous faut du temps pour savoir... le problème n'est pas de supprimer les notes, réformer le baccalauréat, etc. C'est pas ça. Il faut que les enseignants, concrètement, charnellement, temporellement, puissent se réunir pour discuter ensemble et voir ce qui est le mieux. La solution standard, elle ne peut donner que des services standards. Or, je pense qu'il faut être sur du sur-mesure. Et je crois que c'est vrai pour le soin, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la culture, c'est vrai pour le journalisme, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour la plupart des activités dans lesquelles nous sommes impliqués. Donc je crois qu'il faut vraiment réhabiliter la possibilité d'avoir du temps pour se parler, pour échanger, pour organiser ensemble. Et il faut trouver des moments d'innovation, des moments de création. Dans un monde où tout est imposé de manière standardisée, c'est comme s'il y avait une nouvelle censure qui est la capacité de créer du sur-mesure. Et là, moi je suis très, comme tu le sais, attaché à Camus, je pense qu'il nous faut réhabiliter la pensée du midi, entre la misère et le soleil, quoi, et qu'il nous faut donc pouvoir trouver à la fois la capacité de créer à partir d'une double contrainte, la contrainte de la rationalité, parce qu'on ne peut pas la passer à la trappe comme ça, et la nécessité d'un désir irrationnel qui échappe à cette rationalité, qui est l'imagination. Et je crois que c'est très important. Alors aujourd'hui, on tend à essayer de faire une petite place à l'imagination par le vecteur conceptuel très mou de l'émotion. Les neurosciences essaient désespérément de sauver le rationalisme morbide dans lequel ils nous placent en disant qu'il faut de l'émotion. Bon, je veux bien, mais enfin, parlons d'imagination. C'est quand même ça qui est en jeu. Parlons de rêve.
Imagination, création, parole. Donc pour toi, on peut espérer quand même.
Bah oui, sinon ça serait plus qu'un suicide collectif. Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. Je dirais que c'est la politique, à mon avis, c'est là où je fais aussi un peu le lien entre la politique et la psychanalyse. La politique, c'est aussi comme l'amour, quoi. On sait bien que c'est une illusion, mais quelle tentation de pouvoir s'y prendre.
Merci beaucoup, Roland Gory.
Merci, Thomas.
Et à très bientôt.